Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
60% des Africains ont moins de 24 ans. Notre continent est donc assis sur un sac d'or qui n'est rien d'autre que sa jeunesse. Alors, sur Médien, c'est parce que nous savons que cette jeunesse a un incroyable talent, c'est parce que nous croyons à sa capacité de résilience que nous avons lancé InnovAfrique, l'émission qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique sur notre continent. L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce tout premier numéro de votre émission InnovAfrique, le rendez-vous qui vous montre cette belle image de l'Afrique que nous voulons, à savoir celle d'un continent porté par une jeunesse responsable, connectée et entreprenante. Cette semaine, dans votre rubrique Tech Actu, nous allons explorer les dernières nouvelles de la tech en Afrique. L'innovation de la semaine nous conduira au Maroc. Ce sera pour pousser les portes de Sowit, l'étoile montante de l'agriculture en Afrique. Cette start-up veut démocratiser l'agriculture de précision sur le continent. Hamzar Ha-Shaham en est le cofondateur et il sera avec nous dans la rubrique invité. Voilà pour le sommaire à présent, place à Tech Actu. C'est un grand pas en avant dans le renforcement de la cybersécurité en Afrique. L'association Africa Data Protection a récemment lancé une plateforme d'e-learning dédiée à la protection des données sur notre continent. Accessible en français et en anglais, elle propose des cours interactifs pour répondre à la demande croissante de formation en conformité aux lois sur les données. Elle offre des outils adaptés à un large public pour mieux protéger les informations sensibles. Trois semaines après que Meta a introduit des outils de monétisation au Kenya, le gouvernement discute avec TikTok pour offrir des options similaires aux créateurs locaux. Pour Marie Kerema, secrétaire au TIC, cette initiative vise à créer plus d'emplois pour les jeunes via les plateformes numériques, leur permettant de générer des revenus en ligne tout en restant actifs et productifs. L'Université de Zambie et le Centre de recherche sud-coréen CRCV ont signé un accord pour lutter contre le paludisme en utilisant l'intelligence artificielle. Ce partenariat créera un centre d'excellence pour la recherche axé sur l'identification des espèces de moustiques via l'IA, améliorant ainsi la prévention de la maladie dans le pays. Après ce tour d'horizon de l'ActuTech en Afrique, ouvrons tout de suite notre page consacrée à l'innovation de la semaine. Dans cette rubrique aujourd'hui, nous allons vous parler de Sowit, une start-up marocaine qui continue de briller. C'est une championne de l'agritech en Afrique. Sowit veut aujourd'hui démocratiser l'agriculture de précision et pour y parvenir, elle s'appuie notamment sur l'intelligence artificielle et la télédétection pour permettre à l'agriculteur d'irriguer ses terres avec peu d'eau, savoir quand semer, quand récolter. Et pour y parvenir, elle s'appuie notamment sur l'intelligence artificielle et la télédétection pour permettre à l'agriculteur d'irriguer ses terres avec peu d'eau, savoir quand semer, quand récolter et avoir de très bons rendements. Le cofondateur de Sowit est notre invité aujourd'hui. Il est en direct de Casablanca avec nous, Hamzar Ha-Shaham. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors Hamza, vous étiez en charge du développement international d'Airinov, leader français du drone. Et à un moment donné, vous avez décidé de tout laisser pour servir votre pays, le Maroc, pour aider les agriculteurs de votre continent, l'Afrique. Hamza, comment est née cette envie soudaine de moderniser l'agriculture en Afrique? Dites-nous comment Sowit a vu le jour.
La naissance de Sowit, c'est une suite de rencontres. La rencontre du marché et des agriculteurs, parce que dans le cadre de mes missions, j'ai été amené à implémenter la technologie dans une vingtaine de pays africains. Et donc, j'ai pu attester du besoin critique de technologie pour pouvoir répondre à des enjeux de productivité, à des enjeux de durabilité d'un côté, et aussi la rencontre de mon cofondateur, qui s'appelle aussi Hamza, et qui était capable, du fait de sa capacité technique, à combiner un certain nombre de technologies, à amener une réponse abordable pour l'agriculteur africain et une réponse adaptée à ses besoins.
À ses besoins. D'ailleurs, c'est ce qui vous a poussé, je le disais, à tout laisser pour venir servir votre pays et votre continent.
C'est un appel d'air, en effet, un appel d'air parce que le continent africain importe à peu près 50 milliards de dollars de denrées alimentaires. Quand on sait la qualité de certains de ces sols et le potentiel qu'il a en termes productifs, et aussi parce que certains enjeux deviennent des enjeux de société plus que des enjeux techniques ou agricoles. Quand on pense à l'eau aujourd'hui et à l'enjeu qu'il représente pour la société marocaine d'ailleurs aussi pour l'ensemble des sociétés nord-africaines qui aujourd'hui et même méditerranéennes éprouvent ce problème, effectivement la technologie est une réponse sociétale plus que simplement technique ou économique.
Hamza, aujourd'hui, qui sait, peut-être que des agriculteurs sont en train de nous écouter et je veux qu'ils sachent, qu'ils comprennent l'urgence qu'il y a aujourd'hui à profiter des progrès de la technologie. Concrètement, Hamza, si un agriculteur vous contacte, comment votre start-up SO8 pourra l'aider pour qu'il ait de bons rendements?
Donc en fait, un agriculteur qui nous contacte, il nous contacte pour un besoin qui est précis, c'est-à-dire une problématique à résoudre. Mmh. Effectivement, aujourd'hui, quand il nous contacte, il cherche des technologies. La réalité, c'est que c'est lui qui ressent le besoin quand on n'a plus d'eau pour irriguer ses oliviers ou quand il est extrêmement difficile d'envisager la production au vu des nombreux risques aujourd'hui climatiques qui existent et avec eux tous les risques maladies, ravageurs, ainsi de suite. Il cherche une solution pour faire face à un changement, à une réalité dont il n'avait pas suffisamment conscience ou qui n'était pas suffisamment critique auparavant. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On a une équipe d'agronomes qui sont sur le terrain dans les régions Sousmassa, Bnimilal, Moulay Bouslem, ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les autres pays où on est présent. Et ces agronomes-là connaissent très précisément les problématiques des agriculteurs de leur région. Les problématiques de salinité de sol, de manque d'eau, des problématiques parfois où le changement climatique fait qu'il n'y a pas suffisamment de froid. Et certaines cultures ont besoin de froid, ont besoin d'heures de froid pour se développer. On pense par exemple aux rosacées, aux pommiers. Et donc, en fonction de ces problématiques-là qui sont identifiées, en réalité qui dépendent des filières, des cultures, des régions, des tailles et des pratiques des agriculteurs, les agronomes proposent une solution technologique qui consiste simplement en deux éléments. Le premier élément, c'est de la prise de données, parce qu'il est impensable aujourd'hui de continuer à pratiquer l'agriculture sans données. Et la prise de données revient à installer des capteurs. On doit savoir quelle est la profondeur de l'eau dans le puits, le niveau dynamique, le niveau statique. On doit savoir combien d'eau a l'agriculteur, quelle est l'humidité de son sol. C'est des données qui sont extrêmement importantes pour pouvoir piloter. Donc le premier élément, c'est mettre en place des systèmes de collecte de données, donc bien souvent des capteurs, mais aussi parfois de l'imagerie satellite. Et le deuxième temps, c'est pouvoir accompagner cet agriculteur dans l'évolution de ses pratiques, c'est-à-dire l'accompagner au quotidien pour pouvoir décider quand est-ce qu'il faut irriguer, combien de temps il faut irriguer, est-ce que peut-être il faut décider de creuser ou de chercher à creuser un autre puits, est-ce qu'il faut favoriser une culture par rapport à une autre, donc prendre des décisions qui, in fine, vont impacter la rentabilité de l'exploitation agricole.
Alors, vous parliez de collecte de données. Hamza, il y a de cela, je pense, 2 ou 3 ans, vous me disiez que chez SO8, la demande était trop forte. Plus de demandes, donc plus de données à traiter, mais ce n'est pas toujours facile. Quelles sont les difficultés auxquelles, justement, vous faites face concernant la collecte de données, aussi bien au Maroc que dans d'autres pays?
Il y a principalement 2 difficultés, parce qu'effectivement, il ne peut pas y avoir de règles de décision et d'action sans données. Mmh. La donnée est donc essentielle à la prise de décision et essentielle à l'optimisation dans un sens de rentabilité d'une exploitation, même de durabilité. Et souvent, il y a 2 blocages. Le premier blocage, c'est que pour collecter de la donnée, il faut du matériel et du bon matériel, ou bien de l'image et de la bonne image. Et donc, ça a un coût. Donc le premier blocage, c'est que bien souvent, les grandes exploitations ont la capacité de faire cet investissement-là parce qu'elles voient très rapidement l'impact que cela aura sur leur compte de résultats, sur leur rentabilité. Imaginez réussir à diminuer de 20-30% l'irrigation et donc l'énergie de pompage derrière. C'est des économies qui sont très, très importantes. Et donc, il y a un blocage qui est celui de la généralisation. Comment collecter de la donnée de manière plus large, plus générale, c'est-à-dire auprès des agriculteurs, quelle que soit leur taille et quelles que soient les filières. Et donc, je dirais que c'est un blocage qui est d'ordre économique, parce que le coût d'équipement, quand bien même un agriculteur ressent le besoin très fort de mettre en place des systèmes de captation de données, encore faut-il avoir les moyens ou les solutions de paiement le permettant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place du financement par leasing des équipements pour permettre aux agriculteurs de lisser sur 4 ans l'acquisition de ces systèmes de collecte de données et donc de profiter quand même des avantages ce faisant.
Donc
le deuxième blocage, il est plutôt, on va dire, d'ordre culturel, ou bien, mais c'est en train de changer dans un certain sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toujours cette foi que la technologie ou que la donnée permettra un changement, dans le sens où il y a une forme de fatalité dans le changement climatique, une forme de fatalité dans le fait que les pluies se font de plus en plus rares et qu'il est de plus en plus difficile de cultiver certaines cultures. Et donc, parfois, c'est difficile de faire face à cette réalité-là, finalement, de partir relativement défaitiste par rapport à la capacité de la technologie ou des solutions à changer la donne. Et en réalité, ce blocage-là, c'est un rapport à l'agriculteur, une interaction, une relation, une confiance qui se met en place pour pouvoir aller au-delà, et une confiance qui se construit par l'exemple. Les agriculteurs ont bien dû adapter les tracteurs pour pouvoir être plus efficaces, ils ont bien dû adopter aujourd'hui des techniques de semis pour économiser justement certaines pratiques et éviter et conserver aussi la structure de sol. Ils ont bien adopté certaines variétés productives de tomates, par exemple, et qui répondent aux besoins de certains marchés. Donc l'agriculteur, en réalité, empiriquement, est quelqu'un qui adopte les technologies. Simplement, le premier pas est souvent difficile parce que face à l'adversité et face à la difficulté du changement climatique, souvent le réflexe est de se dire ce n'est plus possible.
Vous avez parlé de changement climatique. Justement, qu'en est-il de l'impact environnemental de vos solutions? Comment apportent-elles leur pierre à l'édifice dans un contexte où, vous l'avez dit aussi, de nombreux pays, à l'image du Maroc, luttent contre le stress hydrique?
On a eu un audit indépendant conduit par l'agence d'aide américaine, USAID, concernant justement l'impact de nos solutions. Ils sont partis de nos utilisateurs et les ont, de manière complètement anonyme, sélectionnés, puis interviewés, et ils ont émis un rapport à ce titre-là. Le rapport montre 3 choses qui sont très simples. Premièrement, les technologies permettent de diminuer la pression sur les ressources naturelles. En moyenne, les agriculteurs qui utilisent nos solutions consomment 20-25% moins d'eau. Ceci plutôt dans les régions où l'eau est disponible, c'est-à-dire par exemple, quand on parle du Maroc, dans la région du Rerb, où l'eau est disponible, c'est-à-dire où l'agriculteur peut consommer plus ou moins selon son foie. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, dans certaines régions où il est contraint, il a un stock limité et dans tous les cas, il ne peut pas aller au-delà. Donc ça, c'est le premier élément, c'est baisse de la pression sur les ressources naturelles. Le deuxième élément, c'est une augmentation de la productivité et de la pérennité de l'exploitation agricole. Plus de 8 agriculteurs sur 10 déclarent avoir observé dès la première année une augmentation de leur rentabilité. C'est extrêmement important. Parce que qui dit augmentation de rentabilité dit capacité d'investissement. Et donc, ils peuvent réinvestir dans du système d'irrigation, par exemple, plus efficient, réinvestir, par exemple, dans des pratiques de conservation de sol, réinvestir dans des produits biologiques ou pas, d'ailleurs, qui peuvent permettre d'améliorer leur productivité, ainsi de suite. Et le troisième élément, qui est très important et à mon sens peut-être le plus important, c'est que d'un point de vue impact, les agriculteurs qui utilisent nos technologies, plus de 90% se déclarent mieux muni face au changement climatique. Être muni face au changement climatique, ça ne veut pas seulement dire être capable de réduire une consommation ou être capable d'augmenter une rentabilité. Ça veut dire se sentir accompagné face à quelque chose qui est inédit et qui est de plus en plus difficile à comprendre, à conceptualiser, à confronter. Et c'est un peu le sens de notre
démarche. Une certaine réactivité.
Exactement, une certaine réactivité parce que l'agriculteur, initialement, il réagit par rapport à son expérience. Donc quand il a été confronté 25 fois à la même chose, finalement, il est expert dans cet élément-là auquel il a été confronté, il sait le confronter. Mais quand c'est inédit et quand c'est extrêmement critique et en même temps que ce sont des événements relativement borderline, c'est-à-dire extrêmes, et bien à ce moment-là, c'est extrêmement dur pour lui de réagir. Et c'est pour ça qu'il tombe dans la fatalité, parce qu'il n'a pas d'éléments de référence pour y répondre. Je pense par exemple aujourd'hui, quand on voit les températures qui ont été extrêmement élevées au Maroc, la difficulté des oliviers à connaître un cycle normal, à fleurir, à produire, et la difficulté même d'autres cultures à subsister, ce sont des questions qui sont réelles pour les agriculteurs. Pourtant, quand je pense à une région, par exemple, comme Azro, à une région comme Middels, où les agriculteurs ont été habitués à ce que leur culture produise normalement, c'est un choc. C'est un choc de voir que la température n'y est plus et que l'arbre souffre.
aujourd'hui, est-ce que les autorités, disons, se rapprochent de vous pour que vous apportiez vous aussi votre pierre à l'édifice?
On a toujours été proche des autorités depuis le premier jour, depuis la création de SOHIT, parce qu'on est d'accord sur le constat que la donnée est essentielle pour comprendre déjà ce à quoi on fait face et pour construire des schémas de décision qui aident à la fois au niveau de la parcelle, de l'exploitation, de la région, ainsi de suite. Ce rapprochement, en réalité, il est d'abord le fait avec les institutions de recherche qui sont indispensables à cet effort-là, comme l'INRA avec lesquelles on a une convention depuis plusieurs années maintenant. Il est indispensable aussi avec les autorités tutelles, le ministère de l'Agriculture avec lequel on a travaillé dès 2018 à cartographier un certain nombre d'exploitations agricoles et à comprendre leurs enjeux, par exemple les enjeux d'estimation de rendement de certaines productions ou tout simplement combien d'hectares j'ai de cette culture ou de celle-ci, mais aussi avec d'autres acteurs tels que les acteurs universitaires avec lesquels, par exemple, on a travaillé avec l'université Mohamed Ier à Oujda, avec lesquels on avait beaucoup collaboré pour essayer aussi de comprendre comment on pouvait faire évoluer aussi certaines formations pour mieux munir les étudiants et les amener sur un marché de travail où ils pourraient être force de proposition par rapport à ces enjeux.
Hamza, au-delà du Maroc, dans quels autres pays africains êtes-vous présent et comment adaptez-vous vos solutions aux différents contextes locaux?
En réalité, l'adaptation au contexte local, elle se fait par les agronomes qui sont sur le terrain et qui s'assurent, lorsque la donnée est collectée, de construire la bonne règle de décision avec le producteur. Donc je dirais que c'est une adaptation, c'est une différenciation tardive. Elle se fait au dernier moment sur notre plateforme pour dire ben, quand j'observe telle température, telle humidité, quand j'ai tel besoin en eau, c'est comme ça que je réagis. La réalité, c'est que notre produit est relativement systématique, uniforme, d'un pays à l'autre, et que cette différenciation se fait en intégrant les savoirs locaux des techniciens locaux. Aujourd'hui, on est présent dans plusieurs pays, mais les plus notables sur lesquels on a une activité importante, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Tunisie et le Kenya. Et on se rend compte en réalité que les pays sur lesquels on arrive à mieux travailler, c'est les pays sur lesquels les contraintes sur les ressources naturelles sont extrêmement importantes et l'agriculture est prépondérante dans l'économie. Je pense à un pays comme le Kenya, qui est un pays extrêmement intéressant parce qu'il a des filières agricoles extrêmement développées. On pense par exemple aux cultures florales qui à elles seules pèsent 600-700 millions de dollars à l'exportation, une technicité en local très forte, avec des techniciens qui savent gérer ces cultures qui sont assez sophistiquées, et en même temps une similarité, une pression très forte sur les ressources naturelles. On peut imaginer que le Kenya est un pays relativement bien doté, mais en réalité, il y a encore certaines régions extrêmement importantes pour la production, où les pluviométries baissent, aujourd'hui sont de l'ordre de 400-500 mm, et où les ressources, par exemple les lacs disponibles, aussi se dégrade, à la fois en quantité et en qualité. Et donc, c'est quand on trouve ce schéma-là, c'est-à-dire des filières bien organisées, une certaine technicité en local, une capacité à faire du chiffre pour les agriculteurs localement et des contraintes naturelles grandissantes que la technologie, en réalité, se développe de manière exponentielle.
Et justement, quel regard, très rapidement, portez-vous aujourd'hui sur l'agritech en Afrique?
Aujourd'hui, la réalité, c'est que l'agritech en Afrique est très peu développé, trop peu développé, parce que le développement, il se mesure à l'aune de l'adoption. Et l'adoption, quand on a des agritech aux États-Unis qui vont réussir à mettre en service des dizaines, des centaines de milliers de producteurs, elle est trop peu développée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans certains écosystèmes, elle est très développée. En parlant du Kenya, par exemple, qui est un pays fascinant par la vitesse d'adoption des technologies, on pense au Mobile Money, à M-Pesa, mais vous avez des acteurs aujourd'hui qui font du financement de l'agriculture, qui financent des petits agriculteurs qui autrefois n'avaient pas accès au crédit parce que les banques considéraient que ces agriculteurs n'avaient pas assez de collatéral. Et par exemple, un des acteurs, je ne citerai pas le nom, mais couvre plus de 200 000 agriculteurs. On parle d'une start-up qui existe depuis 10 ans. Et donc la réalité de l'Afrique, pour moi, c'est une réalité qui a géométrie variable. Mais quand on zoome sur les écosystèmes qui sont facilitateurs, qui ouvrent le champ aux jeunes et aux technologies pour se déployer, on trouve des success stories qui sont assez incroyables. Et c'est le cas du Nigeria, c'est le cas du Kenya, c'est le cas de l'Égypte. On a des pays comme ça où les startups réussissent à changer la donne.
Hamza, merci. Merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc est fier de vous. L'Afrique aussi. Merci.
Merci, à très bientôt.
Voilà qui referme ce premier numéro d'InnovAfrique. Merci de l'avoir suivi, où que vous soyez. prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.